Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, tous les 15 jours, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous!
Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2019. L'année commence en beauté pour Basilic puisque je reçois Simon Bernard, ancien ingénieur officier de la marine marchande. Il est désormais l'un des porteurs du projet Plastique Odyssée. Plastique Odyssée est une expédition qui quittera la France en 2020 pour parcourir les mers et océans du monde entier avec pour objectif premier de réduire la pollution plastique des océans. Comme l'explique Simon dans cet épisode, l'enjeu n'est pas de récupérer les plastiques au fond des océans, mais au contraire d'agir en amont, en valorisant les déchets plastiques avant qu'ils n'atteignent les mers. Aujourd'hui, plus de 18 tonnes de plastique sont déversées dans les océans chaque minute. Il est donc grand temps d'agir. Simon et ses partenaires travaillent non seulement à la construction d'un navire propulsé uniquement grâce aux déchets plastiques, mais également à développer des partenariats à échelle locale afin de comprendre les besoins des populations aux endroits où le navire fera escale et d'y mettre en place des systèmes de recyclage adaptés. Bref, je m'arrête là et je vous laisse découvrir cet épisode absolument passionnant. Bonne écoute à tous! Bonjour Simon.
Bonjour Jeanne.
Alors tu es l'un des porteurs du projet de Plastique Odyssée, qui est donc un catamaran qui va sillonner toute la planète et tous les océans à partir de 2020, c'est ça?
C'est ça.
Et est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ce projet, comment il est né, qui en a eu l'idée, comment tout ça s'est élaboré?
Alors moi à la base je suis officier de marine marchande, donc j'ai fait l'école nationale supérieure maritime, Marseille, au Havre, qui permettent de devenir capitaine de bateau. Des gros navires, les porte-containers, les ferries, les bateaux de croisière. Et donc, pendant mes études, j'ai pu naviguer un peu. Donc, en général, quand on fait un embarquement, on part un peu à travers le monde. Je suis allé en Afrique, en Amérique du Sud. Et forcément, je suis passionné par l'océan depuis tout petit. Et notamment le plastique dans l'océan, c'est un sujet qui me touchait beaucoup. Quand on met la tête sous l'eau, qu'on fait un peu de plongée, on se rend compte de toute la pollution qu'il peut y avoir. Alors pas forcément plastique, mais même la surpêche. Et donc c'est un des sujets que j'avais à cœur. Et à côté de mon métier d'officier de marine marchande, que je trouvais très intéressant, il me manquait quand même un petit côté action. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée de Plastique Odyssée, en me disant, bon, il y a du plastique dans l'océan, mais ce qui est super, c'est qu'on peut en faire plein de choses. Comme à côté de ça, je suis très bricoleur et j'aimais beaucoup l'innovation, la technique. Je savais qu'on pouvait le recycler pour en faire des tas de choses. Et donc, quand je me suis penché un peu sur le problème, l'idée, c'était de se dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces déchets-là comme ressources pour les populations locales dans les pays les plus pauvres. Et donc, permettre à des gens de créer leurs petites entreprises de recyclage partout dans le monde pour éviter que ces déchets n'arrivent dans l'océan. Donc l'idée du bateau est venue un peu après. Le bateau, c'est plus un ambassadeur de ces systèmes-là pour aller dans les pays, faire escale dans les pays les plus touchés et partager ces solutions-là pour qu'elles puissent être répliquées et derrière faire vivre des gens, recréer des petites économies du recyclage.
Ouais, donc vraiment, en fait, partager tes connaissances, enfin vos connaissances, et ce qu'il est envisageable de faire avec les populations locales, donc en Afrique, en Amérique du Sud, et tout ça, j'imagine.
Voilà, alors pour le moment, on est quatre un peu à la base de ce projet-là. À la base, un copain de marine marchande, un camarade de promo, Alexandre. Et puis Bob, qui est un peu l'ingénieur du groupe, qui nous a rejoint juste après, et Benjamin, qui est la partie un peu plus commerce, donc réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire vivre des gens derrière avec des systèmes simples. Mais on avait remarqué qu'il y avait des tas de choses qui se faisaient sur le recyclage. On sait qu'on peut en faire, par exemple, des maisons On fait fondre le plastique, on fait des briques, on arrive à faire des maisons. On peut remplacer comme ça des matériaux de construction. Et autre chose que j'avais découvert, c'est qu'on pouvait faire du carburant avec du plastique qu'on ne pouvait pas recycler. Donc ce qui se passe en général, c'est que le plastique est dans les pays les plus pauvres, dans lesquels on n'a pas de moyens de collecte et de traitement des déchets, le plastique est laissé à l'air libre dans des décharges sauvages. Et c'est ça la source de la pollution de l'océan. Au pire des cas, il est brûlé entre quatre murs pour s'en débarrasser. On s'est dit, tout ce plastique qu'on ne peut pas forcément recycler parce qu'il n'a pas été conçu pour, on pourrait quand même en faire une dernière chose et le retransformer en carburant. Donc ça, c'est des choses qui existent dans des usines qui coûtent très cher en Europe, aux États-Unis, et qui ne sont pas du tout adaptées à la situation sur place, locale, dans les pays qui auraient besoin de ce traitement des déchets. Donc tout le challenge, c'est d'arriver à ces solutions-là, à des systèmes qui sont à petite échelle. Low-tech, donc c'est un peu l'inverse des high-tech, c'est des systèmes qui sont simples à construire, à réparer, qu'on pourrait donc répliquer facilement. Et puis derrière, le défi, c'était d'arriver à des solutions open source, donc sans brevet, pour justement faciliter encore plus cette réplicabilité et aussi permettre d'adapter ces solutions à des besoins spécifiques. Et donc, c'est le premier défi qu'on a, c'est d'abord de construire ces machines-là, d'arriver à des solutions qui n'existent pas aujourd'hui, pas en essayant de réinventer ça, nous, dans notre coin, en France, mais au contraire, en essayant de réunir un maximum de gens, à la fois des ingénieurs, des entrepreneurs, des chercheurs, pour réussir à développer des systèmes les plus simples possibles, les moins chers, qui vont permettre de recycler du plastique. Alors aujourd'hui, on a ciblé un peu trois axes de travail. Donc déjà, le plastique, il faut réussir à le trier si on veut le recycler. Alors le trier, ça ne veut pas dire mettre dans la poubelle jaune ou parce que finalement, le plastique, il y a différents types de plastique, mais on ne peut pas le reconnaître à l'œil nu. Donc on va avoir une bouteille ne va pas être faite de la même manière qu'un sac plastique, par exemple. Et on ne peut pas recycler les deux en même temps. On ne peut pas les faire fondre, les mélanger et en faire un nouvel objet, ça ne marche pas. Donc il y a un premier défi, c'est d'arriver à les séparer. Pour ça, en France, en Europe, on a des usines qui coûtent très cher, avec des capteurs high-tech qui sont très peu accessibles. Donc le premier défi, c'est d'arriver à une solution. On travaille sur un capteur low-tech qui coûtera moins de 100 euros, alors qu'aujourd'hui, c'est environ 15 000 euros un capteur de tri. Et donc une solution qui pourrait très bien permettre de créer des petits centres de tri. Première étape du recyclage, c'est le tri. Donc un petit centre de tri plutôt manuel avec un opérateur qui prend le tas de déchets et les met dans les différents bacs et a à sa disposition ce petit outil pour trier les déchets. Ensuite, deuxième solution, c'est recycler le plastique pour en faire des nouveaux objets. Donc là, on imagine un système qui permet de faire fondre le plastique pour en faire des briques, pour en faire des planches, des plaques, des tuiles, pour des toits. Donc vraiment une sorte de couteau suisse du recyclage. Et puis, troisième axe, quand on ne peut plus recycler le plastique, c'est de faire du carburant. C'est un peu la meilleure chose qu'on peut faire au lieu de le brûler ou de le laisser dans la nature. Alors, même si ça reste du carburant fossile, l'avantage, c'est que ça permet de réduire quand même beaucoup de CO2. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été chercher du pétrole, on n'a pas été extraire du pétrole, transporter, raffiner. Et de l'autre côté, on a évité tous ces déchets, on a évité à ces déchets qui soient brûlés. Et donc, si on fait le bilan global, on évite beaucoup de CO2 et de pollution en faisant ça. Donc, c'était un système qui nous paraissait aussi très intéressant à creuser. Et l'idée, c'est que ces trois systèmes sont complémentaires et donc peuvent soit être utilisés séparément, soit faire une sorte de petit centre de recyclage local et traiter les déchets qui sont là.
Pour le carburant, après, ça peut être utilisé... bon, là, on va le voir, ce sera vous, votre objectif, c'est de l'utiliser pour votre bateau.
On obtient du diesel et de l'essence, les deux. Dans des pays comme en Afrique, par exemple, une famille sur deux a un groupe électrogène pour s'éclairer, pour pallier aux coupures de courant, et donc utilise beaucoup de carburant. Donc ça, c'est une des applications assez intéressantes, c'est de remplacer le carburant qui est importé de très loin par du carburant recyclé de déchets pour les groupes électrogènes. On travaille aussi sur un projet d'hôpital, un hôpital de moins de 24 heures qui a des panneaux solaires pour avoir accès à l'énergie, mais qui a quand même besoin d'un groupe électrogène la nuit, et pendant des coupures. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'hôpital produit beaucoup de déchets plastiques qui ne peuvent pas du tout être recyclés, qui sont des déchets infectieux et qui doivent être en plus traités. Donc, il faut de l'énergie pour traiter ces déchets. Donc, nous, on réfléchit à installer notre système pour transformer ces déchets infectieux, ces déchets plastiques, en faire du carburant pour alimenter l'hôpital en énergie. Ça, c'est une autre application assez maligne qui pourrait voir le jour. Et puis, on pense aussi aux bateaux de pêche, par exemple. Les bateaux de pêche, même en France, on produit énormément de filets, des filets de pêche, on ne sait pas quoi en faire. Et on peut imaginer transformer ces filets en carburant pour le bateau, justement, de pêche.
Ok, donc ça reste quand même dans un circuit assez court.
Voilà. L'objectif, ce n'est pas de faire concurrence au groupe pétrolier, mais c'est vraiment de recréer des économies locales. On pense que c'est vraiment une des meilleures options pour ce type de situation, éviter la corruption en passant par justement le bas et en faisant émerger des petites solutions plutôt que des grosses usines qui demanderaient de la collecte, des gros investissements et qui seraient forcément difficiles à implanter.
Oui, bien sûr, puis beaucoup plus facile à mettre en œuvre à une échelle locale d'un village ou d'une petite ville, tout à fait envisageable, quoi.
C'est ça. Donc, alors, c'est pas, ça ne s'adresse pas aux particuliers. Chacun ne va pas faire ça chez soi, dans son garage, mais c'est plus des solutions qui pourraient être adaptées à des entreprises familiales. Alors, le tri, c'est ce qui se fait déjà dans ces pays-là. C'est des entreprises où le mari va collecter au porte-à-porte les déchets, la femme trie les déchets et les revend derrière. Et ça, on pourrait imaginer ça pour faciliter ce travail-là, améliorer les conditions et en faire naître de plus en plus de collecte et de tri. Et puis après, la pyrolyse, donc le plastique en carburant, c'est des solutions qui sont quand même assez complexes, donc ça demande quand même des gens qualifiés. Mais ça peut très bien, il peut y avoir une entreprise de 3-4 personnes et ça pourrait suffire.
D'accord. Et vous, avec votre navire, donc l'idée c'est de récolter ces plastiques dans les océans, d'alimenter votre navire avec ce carburant donc issu du système de pyrolyse. Et sur le navire, j'ai vu de mettre en place une plateforme de recyclage. Est-ce que ça, c'est dans l'objectif justement de montrer aux gens ce qu'il est envisageable de faire, de montrer les low-tech qu'ils pourraient utiliser ? C'est ça le but derrière ?
Voilà, alors l'objectif de ce bateau, c'est vraiment d'être une sorte d'arche de Noé de tous ces systèmes-là et d'aller faire une démonstration. Donc le bateau est vraiment un petit démonstrateur de ce qui pourrait être fait à terre. Et alors c'est vrai qu'on pense souvent qu'on ramasse les déchets en mer, c'est pas le cas, le bateau va pas collecter les déchets en mer. À la base, c'est ce qu'on voulait faire quand on s'est intéressé au problème du plastique, on s'est dit il faut aller les ramasser. Parce que tous les médias nous montrent des photos de plastique qui flottent et qu'on entend beaucoup parler de projets qui veulent ramasser du plastique, donc on s'était dit c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte que tous les scientifiques disaient exactement le contraire.
Ok.
Et toutes les recherches scientifiques, et pas une seule, concluent en disant qu'il faut ramasser le plastique. Pourquoi ? Parce qu'il ne flotte pas. Donc on voit beaucoup de photos, d'illustrations de plastique qui flotte, mais en réalité, ça c'est sur les côtes. Le plastique en mer, on ne le retrouve pas à la surface. On retrouve à peine 1% de tout ce qu'on a mis. Et généralement sous forme de petites particules de plastique. Même dans ce qu'on appelle le 7e continent, donc c'est vrai que c'est un terme qui marque les esprits, on se dit bah, y a un continent de plastique dans le Pacifique, en réalité c'est pas du tout un tas de déchets qu'on pourrait ramasser à la pelle, c'est juste une zone où on a remarqué qu'il y avait plus de microparticules qu'ailleurs, et qui fait la taille d'un continent, c'est pour ça qu'on l'appelle. Donc c'est une grande zone très vaste, mais qui est assez peu dense, et donc on n'a pas grand chose à ramasser dans ce 7e continent. Et en fait, si on regarde un peu quelle quantité de déchets flotte dans le continent de plastique, soi-disant continent de plastique, c'est l'équivalent du plastique qui se déverse tous les 3 jours dans l'océan. D'accord. Donc si on collecte tout, on a résolu 3 jours du problème. Donc on se rend compte que c'est un peu la goutte d'eau et que c'est pas tout à fait là qu'il faut regarder si on veut avoir un impact sur la pollution.
Vaut mieux agir en amont.
Voilà. Et donc le bateau est vraiment un ambassadeur, mais c'est pas du tout une fin en soi. L'objectif, c'est d'aller à terre. Donc, c'est de faire escale et c'est plutôt un moyen de se déplacer de pays en pays, d'aller toucher des endroits comme des îles qui sont vraiment dépourvues de toute gestion de traitement. Donc, c'est des solutions qui sont vraiment adaptées pour les îles. et de pouvoir aller comme ça faire une démonstration. Alors le défi qu'on s'est lancé, c'est de faire avancer notre bateau uniquement à partir de déchets plastiques recyclés directement à bord. Et ça, c'est ce qui fait, on va dire, que les médias en parlent et que les gens s'intéressent au problème. Donc c'est vraiment le défi qu'on s'est lancé, c'était, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait Bertrand Piccard avec Solar Impulse. Donc cet avion qui a fait le tour du monde en utilisant uniquement l'énergie solaire. L'objectif, c'était pas de répliquer des avions derrière, mais c'était vraiment de montrer, regardez, on peut utiliser l'énergie solaire, les énergies renouvelables, c'est une solution d'avenir, il faut travailler dessus. Et nous, on s'est dit, il faut faire pareil pour le recyclage. Donc on va montrer que tout ce plastique-là, on peut en faire quelque chose. Et donc, au lieu de faire le tour du monde de manière classique sur un bateau avec du carburant, ou même à la voile, on aurait pu le faire à la voile, mais ça aurait eu moins d'impact. On s'est dit, il faut marquer les esprits. On va montrer qu'on peut avancer uniquement en utilisant les déchets qu'on va ramasser à chaque fois qu'on fait escale, et qu'on ne pourra pas recycler. On va faire le plein de notre bateau avec. Donc, comme dans Retour vers le futur, la DeLorean des mers. Donc c'est vraiment le truc qui marque les esprits et qui nous permet derrière de faire connaître le projet et donc attirer énormément de gens, fédérer une communauté. Et donc, comme ça, en très peu de temps, on a réussi à être contacté par plein d'entrepreneurs en Afrique, en Asie. On a des ingénieurs qui travaillent avec nous tous les jours, qui se greffent à nous. Autour de cette problématique qui marque beaucoup, la pollution plastique, tout le monde en parle, donc tout le monde a envie d'agir. Et donc c'est ça un peu ce pouvoir fédérateur du bateau. On aurait pu juste faire des machines dans notre garage, mais ça aurait eu moins d'impact, on aurait pu moins fédérer. C'est vraiment ça l'objectif.
Et pour la construction justement de ce navire, c'est un catamaran, un grand catamaran, hein. Il va faire 12 ou 15 mètres.
Il va faire 25 mètres.
25, ouais. Ah, j'avais gardé en tête 15, déjà ça me paraissait grand. 25. Pour la construction, comment vous vous y prenez? C'est vous qui allez contacter les
Alors on a.
Comment ça se passe?
Pour l'instant, on a construit un petit bateau, donc un prototype qui fait 6 mètres.
Qui a été mis à l'eau cet été.
Voilà, il a été inauguré le 15 juin par Brune Poirson, la secrétaire d'État.
J'ai vu ça, ça s'est bien passé.
C'était super, ouais. C'était vraiment super. Et on a réussi, alors le chantier était... on a fini le bateau au dernier moment, c'est comme toujours. Mais on a réussi à mettre ce bateau qui a vraiment un look surprenant. On a voulu faire exprès, on travaillait sur comment est-ce qu'on pourrait mettre en valeur ces machines de recyclage qui est donc à l'avant du bateau. On a travaillé avec des designers pour la mettre en avant et comprendre ce qui s'y passe. On ne voulait pas faire une sorte de boîte noire. Comme l'objectif, c'est de partager les plans des machines, on s'est dit qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à protéger. On va au contraire le montrer, expliquer ce qu'on peut faire. Donc on a un réservoir transparent à l'avant, on met le plastique dedans et on voit le plastique entrer dans la machine, être transformé et les gouttes de carburant couler. Donc vraiment, tout est visible pour derrière alimenter le bateau. Et donc l'idée, c'est d'avoir un premier prototype qui, là, en ce moment, fait un tour de France. Et derrière, le plus gros bateau, ça, c'est le défi là, auquel on s'attelle là maintenant. C'est un bateau qui, on ne sait pas encore exactement si on le construit ou si on récupère une coque déjà existante pour l'améliorer, mais dans tous les cas, si on le construit, ça va être un bateau en bois, donc en contreplaqué, qui derrière aura une deuxième vie de navire de recherche océanographique. Donc on a un partenariat avec un groupe de constructeurs qui a mis au point ce type de bateau de recherche océanographique, et on s'est dit on va construire ce bateau là l'adapter avec nos machines pour en faire un centre de recyclage, et à la fin du projet, ce bateau partira faire de la recherche scientifique.
Donc ça permet qu'il ne soit pas inutilisé.
Ouais, c'est ça.
C'est mieux. Et j'ai vu que sur le bateau, il y aura aussi des panneaux solaires.
Voilà, alors les panneaux solaires vont vraiment servir pendant les escales, alors en mer pour les appareils de navigation. Mais le but, c'est pas de propulser le bateau. Parce que pour propulser un bateau à l'énergie solaire, il faut des surfaces énormes. Il y a eu quelques projets comme ça, c'est assez énorme, il faut vraiment dédier tout le bateau à ça. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une source d'énergie pour, par exemple, broyer le plastique. Okay. On arrive, on broie le plastique avec des broyeurs, et ça, il faut de l'énergie, donc on utilise l'énergie solaire. Et derrière, on le recycle en le faisant fondre. Ça demande aussi de l'énergie. Ça demande plus d'énergie. On ne pourrait pas forcément alimenter qu'avec des panneaux solaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pyrolyse, donc l'autre système qui fait du carburant, peut être utilisée pour fournir l'énergie au recyclage. Donc c'est vraiment des systèmes qui peuvent être complémentaires et on peut vraiment imaginer un petit centre tout en un avec l'énergie, même quand on n'est pas relié au réseau.
Et sur ce bateau, vous allez être combien à peu près à naviguer? Enfin, j'imagine que vous n'allez pas être tous ensemble pendant 3 ans, mais comment ça va se passer?
Alors sur le bateau, il va y avoir 6 membres d'équipage. Donc c'est quand même un bateau assez grand pour pouvoir mettre toutes ces machines-là. On ne sait même pas si on va réussir à tout faire tenir sur 25 mètres, mais on va essayer d'aménager au mieux. Et donc il faut 6 personnes, il faut environ 3 personnes pour la navigation. Donc entretien du bateau et conduire le bateau, on va dire. Il faut se relayer 24 heures sur 24. Et pareil pour la machine, la mécanique. Il faut aussi environ 2 personnes pour s'assurer que tout fonctionne bien, surtout que ça va être un peu innovant, le moyen de propulsion qu'on utilise. Donc il faut aussi pas mal travailler là-dessus. Et on va se relayer forcément. Alors l'objectif, c'est vraiment pas, comme je disais, la navigation. Ça, c'est juste une partie, ça va pas nous prendre beaucoup de temps, mais c'est surtout organiser des événements aux escales pour arriver à toucher un maximum de gens. Ça, c'est le gros défi en ce moment. C'est trouver les relais localement dans chaque pays dans lequel on va aller pour avoir le plus d'impact. Donc aussi bien au niveau des politiques, des décideurs, que d'aller toucher des investisseurs, des entrepreneurs, et puis permettre de mettre en relation tout ce monde-là pour pouvoir initier des usines sur place.
Ouais.
On ne peut pas tout faire, donc c'est vraiment initier des initiatives. Ben, c'est arriver à créer des centres. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup parce que c'est pas évident.
Ouais, puis ça va nécessiter quand même de rester plusieurs jours à chaque escale, le temps de rencontrer les gens, de mettre en place ces partenariats, de bien expliquer que les gens prennent conscience que c'est pas si compliqué, enfin que c'est envisageable et tout ça, ça implique quand même de rester quelques jours.
Voilà, alors on va vraiment préparer ça 2 ans avant. Là, on commence à préparer les premières escales pour commencer, pour tisser des partenariats et arriver déjà que tout soit préparé. Et après, l'escale va durer 3 semaines. Ce qui n'est pas du tout suffisant. Il faudrait rester 10 ans pour qu'il y ait quelque chose qui vraiment se passe. Donc l'idée, c'est vraiment d'amorcer, de le planter une petite graine. Et ce qui serait génial, ce serait de pouvoir avoir une sorte d'ambassadeur local avec, dans l'idéal même, un local physique, une sorte d'incubateur local de projet, avec un relais de l'association du projet qui permet donc de faire le relais, de partager les plans, de les améliorer, de les adapter à la situation locale, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins en Afrique qu'en Asie. Donc nous, on apporte un début de solution, des briques technologiques, donc premiers outils, mais qui vont derrière être répliqués, mais adaptés surtout. On ne peut pas imaginer tous les usages, nous, en France. Il faut vraiment travailler avec des utilisateurs qui vont être sur place dans les pays.
Oui, bien sûr. Et j'ai vu que vous aviez quand même un réseau assez étendu de soutien, donc des scientifiques, des juristes, des entrepreneurs. Est-ce que ça, c'est des gens qui sont venus vers vous, que vous avez contactés? Comment vous avez établi ce réseau? Parce qu'il y en a plusieurs sur votre site, au moins une vingtaine.
Non, la majorité, c'est des gens qu'on a rencontrés, soit par hasard en cherchant les manières de développer nos systèmes. Donc on a rencontré beaucoup de spécialistes, d'experts comme ça, qui ont adhéré au projet. Et puis en fait, la grande majorité des gens, des bénévoles, c'est des gens qui ont entendu parler du projet, qui nous ont appelés. Et on s'est dit, mais c'est génial, parce qu'on n'aurait jamais trouvé ces personnes-là, qui sont des fois des chercheurs dans un petit laboratoire vraiment inconnu, personne ne les connaît, et par contre, ils font des trucs géniaux. Et donc, grâce à ce pouvoir d'attraction, on va dire, du projet, on a réussi à embarquer avec nous des tas de spécialistes, d'experts. Et puis, c'est que le début, puisque maintenant, on commence à être contacté à l'international, en Afrique. On échange pas mal avec des entrepreneurs en Afrique pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe sur place, comment on peut aider. Et donc, ouais, c'est le début d'une grande aventure, je pense.
Bah ouais, carrément, c'est trop bien. Est-ce que tu connais Corentin qui a fait le tour des low-tech? Parce que j'en avais parlé dans un épisode. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'en avais parlé. Et il est en Thaïlande là, pendant 3 mois. J'ai suivi pas mal ses aventures. Donc, ça me fait même si ce n'est pas la même chose, ça me fait penser à ça. Je me dis que c'est complémentaire comme aventure.
Il n'y a pas trop de hasard, en fait, parce que je n'ai pas tout raconté sur le comment est né le projet, ce que j'ai fait avant. Mais notamment, j'ai passé un an avec Corentin.
Au Bangladesh?
Alors, non, juste avant que le bateau, son expédition parte. J'ai grandi à Concarneau et son équipe a des bureaux à Concarneau et donc je passais pas mal de temps là-bas à chaque fois que je débarquais donc sur mes temps de congé un peu entre deux embarquements je passais par Concarneau et donc j'allais bricoler avec eux et j'avais notamment réfléchi à un moyen de dessaler l'eau de mer donc rendre accessible l'eau potable de manière low-tech. Et j'ai beaucoup adhéré à cette démarche d'arriver à simplifier tout ce qu'on fait, toutes ces technologies-là, et aussi de l'open source, parce que c'est leur cœur aussi, c'est les valeurs qu'ils portent. Et donc j'ai vraiment voulu monter un projet sur le plastique, mais en gardant ces valeurs-là, qui sont à mon avis très intéressantes.
D'accord, ah, ça fait sens alors.
Ouais, ça fait sens.
Oui, donc en fait, pour résumer, on peut dire que vous, votre objectif, c'est vraiment que les déchets plastiques ne soient pas considérés justement comme des déchets.
Voilà, en fait, quand on regarde, donc quand on s'est intéressé à la pollution plastique, on s'est dit comment est-ce qu'on peut la résoudre. Bon, si on ne peut pas les nettoyer, le plastique, il faut forcément agir avant à la source. Et en regardant, il y a assez peu d'études scientifiques finalement, mais l'étude la plus complète aujourd'hui qui est citée partout, elle donne la source du problème, donc la liste des pays un peu responsable de cette pollution et comment lutter contre le problème. Et donc, il y a vraiment deux axes. L'étude dit, si on veut réduire la pollution, il faut à la fois réduire les déchets, donc réduire la consommation de plastique dans les pays qui en consomment trop. Si on regarde les pays qui en consomment trop, c'est 80% des pays riches. Donc, l'étude dit, il faut réussir à se limiter à 1,7 kg par jour et par personne. Ce qui paraît énorme, 1,7 kg de plastique par personne, c'est déjà, on se dit, ça fait quand même beaucoup. Mais on est déjà au-delà. En France, on est à 2 kg. Donc si déjà on arrive à ce que tous les pays se limitent à 1,7, on peut réduire de 25% la pollution de l'océan. Et en parallèle, c'est le traitement des déchets dans les pays qui n'ont pas de moyens de traitement. Et ça, 90%, c'est des pays pauvres. Donc, on s'est dit, bon, il y a déjà beaucoup de projets qui agissent sur le zéro waste, limiter les déchets. Ça, c'est vraiment une démarche qu'on porte. Et d'ailleurs, toute la vie à l'intérieur du bateau sera zéro waste. Donc, on ne va pas avoir de plastique. On ne va pas utiliser de plastique à bord. Et en parallèle, on va favoriser le traitement des déchets. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si on prend juste les 20 premiers pays, donc si on cible 20 pays les plus pollueurs, qu'on améliore le traitement des déchets par 2 dans ces 20 pays, on réduit la pollution globale, donc mondiale, de 40%. Donc l'impact est énorme sur ce qu'on peut faire dans finalement assez peu de pays. Et ce n'est pas dans tout le pays, puisque l'étude dit aussi c'est sur une bande, donc ça concerne les villes qui se trouvent à moins de 50 km de la côte. Donc c'est vraiment une toute petite bande côtière le long des pays les plus touchés par la pollution. Et en agissant sur ces côtes, on peut résoudre vraiment quasiment de moitié la pollution plastique. Donc l'impact est énorme. C'est pour ça qu'on se dit qu'il faut vraiment réussir à remonter à la source comme les saumons avec notre bateau et puis aller sur ces côtes-là, dans ces 20 pays les plus responsables de la pollution, pour tenter de freiner tout ce plastique qui se déverse.
Ouais, en fait, il y a vraiment deux pans. Il y a un pan qui passe plutôt par l'éducation des populations et pour agir en amont, éviter qu'on consomme trop de plastique. Bon, ça, on en a pas mal parlé dans le podcast. Moi, je le vois tous les jours à Hong Kong et tout ça. Mais de vraiment dire aux gens, bon, là, il va falloir essayer de restreindre. Vous pouvez faire comme ça, vous avez ça comme alternative. Mais il y a aussi, et vous, ce sera plutôt votre cœur de métier, du coup, une fois que le déchet existe, enfin que le plastique a été généré, bien le prendre en charge et en faire tout ce qu'on peut en faire, donc les trois axes que tu as évoqués plus tard.
Exactement, en fait, c'est d'un côté, ça concerne les pays riches et ceux qui produisent le plastique, donc les grandes entreprises, les designers qui réfléchissent aux emballages. Donc là, il y a un gros travail à faire avec pour repenser l'emballage et repenser la manière dont on utilise et donc on produit le plastique. Et ça, c'est vraiment un autre sujet. Et de l'autre côté, c'est une fois que ce plastique a été produit, qu'est-ce qu'on en fait ? Il est là et aujourd'hui, ça représente 6 milliards de tonnes dans la nature qui n'ont pas été ni enfouies, ni brûlées, ni recyclées. Donc 6 milliards de tonnes, si on devait les transformer, les recycler avec nos petites machines, il faudrait 1 million de machines pendant 30 ans pour traiter ce qui est déjà en ce moment-là. Donc en considérant qu'on arrête aujourd'hui le plastique. Ce qui est loin d'être le cas, puisque c'est exponentiel. On voit qu'il y a du boulot.
Ouais. Il y a des statistiques un peu déprimantes quand même sur votre site. Par exemple, j'ai lu hier que 18 tonnes de plastique entraient dans les océans chaque minute.
C'est ça, c'est assez énorme, ça fait 3 éléphants. et ce qui est encore plus déprimant, c'est que c'est exponentiel. Donc si on arrive à réduire la pollution de 40%, on reste au même niveau. En 2025, on n'a pas bougé. On a toujours 18 tonnes. Parce que de l'autre côté, on a produit. Donc c'est là où on se dit, c'est vraiment, il faut agir. Il n'y a pas de solution miracle. On ne va pas aller nettoyer l'océan. On ne va pas résoudre le problème en claquant les doigts. Mais il faut vraiment, à tout niveau, nous, dans notre quotidien, limiter notre consommation de plastique, travailler avec les groupes pour repenser l'emballage et puis traiter les déchets. Je pense que c'est un peu tous les sujets... Il faut traiter de front en parallèle.
Ouais, ça va être le seul moyen pour se sortir de tout ce plastique, ça c'est sûr. Pour les gens qui voudraient soutenir Plastique Odyssée, qui voudraient vous suivre, comment ça se passe ? Vers où je les renvoie ? Votre compte Instagram, Facebook ?
On a un compte Facebook, Instagram, Twitter. Sur le site internet, surtout, on peut s'inscrire à la newsletter. Ouais. Donc directement, quand on arrive, on peut s'inscrire et suivre le projet. Pour l'instant, on n'a pas encore mis beaucoup de contenu, mais c'est vraiment dans les prochains mois, toutes les news vont arriver par là. Et puis derrière, donc le projet est soutenu par à la fois du don, du mécénat d'entreprise et des grands groupes qui soutiennent le projet, donc qui s'associent plus des sponsors, ce qui nous permet de développer des machines qui sont open source, donc de ne pas avoir d'investisseurs et de ne pas faire de l'innovation comme on le fait dans les startups, mais au contraire d'avoir une autre démarche qui permette d'arriver à des technologies de bien commun, d'intérêt général, et qui nous permettent de s'affranchir de cette manière d'innover classique, on va dire.
Super, bon bah parfait. De toute façon, votre site internet est hyper bien fait, très, très complet, je pense que tout le monde trouvera les réponses à leurs questions. Merci beaucoup Simon
d'être venu
et bon déménagement à Marseille. Et puis on va suivre de près la construction du navire. Je partagerai tout ça sur les réseaux sociaux de Basilic. Et puis à bientôt.
Super, à bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez soutenir Simon et toute l'équipe de Plastique Odyssée en faisant un don à leur association. J'indiquerai leur site internet dans la description de l'épisode. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches et également avec vos amis virtuels. Et si l'épisode vous a vraiment plu, je vous invite à laisser un commentaire sur la plateforme d'Apple Podcast. Pour 2019, je me suis promis d'être plus présente sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, que je compte utiliser pour vous relayer des informations intéressantes et partager avec vous mes dernières découvertes. J'espère vous y retrouver nombreux. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt !